No.
Non.
Très bien.
Parce que bon, j'ai rien d'intéressant à dire.
Pour arriver à la décroissance.
Bu de l'alcool et fumé du cannabis.
Tout avait commencé dans le calme.
Soupçonné d'avoir reçu des pots de vin, toujours au Proche-Orient.
Pas le moyen pour répliquer.
Ils ont gaz lacrymogène.
Eux, ils ont les matraques, ils ont tout. Nous, on a rien, on a que les mains, on a que des pierres.
Un fasciste.
L'esclavage n'a hélas pas totalement disparu, y compris en France.
Uniquement le pognon, est-ce que vous êtes content avec ça?
Une question se pose. Les expériences aériennes françaises sont-elles dangereuses?
Est-il vrai que le 26 juillet 2006, une catastrophe nucléaire a été évitée de justesse en Suède? Oui, c'est parfaitement vrai.
Mais dans le bateau, là où nous sommes embarqués, il n'y aura pas de canot de sauvetage.
L'incompatibilité entre l'existence du capitalisme, la nature du capitalisme, forcément, et la gestion des problèmes écologiques.
Oh là là, il y en a des choses affichées à la poubelle.
Et oui, il est 19h passé de 3 minutes à la pendule de la plus rebelle des radios, l'heure du Canu Info. Comme tous les jours de la semaine, 19h-20h, c'est la plage d'information de la plus rebelle des radios. L'équipe de ce soir, c'est bien sûr Delphine.
Bonsoir.
Et Laurent, pour un tour complet et personnel de l'actualité. Vous avez l'habitude maintenant. Je voulais juste commencer en rappelant que l'équipe du Canu Info n'est pas contre la burqa. L'équipe du Canu Info est contre toutes les formes d'oppression religieuse et contre toutes les religions. Donc juste pour rappeler que ce débat n'a pas lieu d'être, mais qu'on ferait mieux, l'État ferait mieux de mettre de l'argent et de l'énergie pour développer la laïcité et lutter contre l'emprise religieuse qui ne recule pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et il n'y a pas que les musulmans basanés qui font peur aux fachos. Il y a une montée générale des religions. On l'a pu le sentir avec les informations sur Haïti, hein, où on a entendu beaucoup de propos très religieux, beaucoup le terme miracle. Hein, il y avait des miracles toutes les 5 minutes. Le miracle étant un terme vraiment religieux. Donc voilà, aujourd'hui, on est bouffé, phagocyté par les propos, les termes, l'idéologie religieuse. Et c'est contre ça qu'il faudrait que l'État se batte. Et pas simplement contre la burqa ou d'autres signes extrêmes de certaines religions. On commence par George Mitchell. Je ne sais pas si tu te rappelles qui c'est le pote à Barack. On va les appeler comme ça maintenant, on va faire semblant de les connaître. Non, parce qu'en fait, on les aimerait pas, je pense, si on les connaîtrait, si on les connaissait vraiment. Donc oui, l'envoyé spécial de Barack Obama au Proche-Orient, donc tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, il se fait son petit tour. Il utilise beaucoup l'avion, George Mitchell. Donc son petit tour en Israël et dans les territoires occupés. Et donc là, il est au Proche-Orient. Et c'est un fiasco, comme d'habitude. Il faut savoir que quelques heures après la visite qu'il a fait, l'entretien qu'il a fait avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le même Premier ministre s'est rendu dans deux colonies, deux blocs de colonies de Cisjordanie, Gush Etzion et Malé Adumim, pour inaugurer des nouvelles maisons. Donc ça situe un peu où on en est aujourd'hui. C'est-à-dire que les États-Unis, à travers le discours de Barack Obama, qui est un discours relativement offensif il y a quelques, presque un an, sur il faut résoudre le problème, il faut trouver un moyen de faire la paix. Aujourd'hui, quand George Mitchell y va, c'est juste une visite comme ça, en passant. Netanyahu, il va le voir 5 minutes, et après, le lendemain, il se casse, inaugurer des nouvelles implantations. Forcément, quand George Mitchell va voir les Palestiniens lui disent « Stop, stop, nous, on veut bien négocier la paix », mais quand ils arrêteront leur colonisation, et les Palestiniens rappellent d'ailleurs que c'est pas une condition pour reprendre les pourparlers de paix, c'est une condition de respect des précédents accords qui ont été signés. Voilà, la feuille de route et tout ça. Donc voilà, aujourd'hui, ceux qui font l'impasse sur le processus de paix, c'est naturellement Israël, qui est plutôt engagé dans un processus de guerre. Voilà, donc les bruits qui courent aujourd'hui, c'est que suite à ces différents échecs, Barack Obama va lâcher prise et va laisser tomber le Proche-Orient. Alors c'est un peu une crainte, parce que voilà, Israël va se sentir tout puissant, parce que quand les États-Unis n'interviennent pas, c'est comme s'ils laissaient faire, et donc ils donnaient indirectement leur accord. Donc voilà, les bruits de guerre vont enfler à nouveau, et la situation pour les Palestiniens risque d'être toujours aussi critique. Et au même moment, d'ailleurs, on a à l'ONU la discussion sur le droit du peuple palestinien. C'est une commission de l'ONU qui était ouverte par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui a fait un discours qui, lui, contrairement à Mitchell ou à Barack Obama, continue d'être offensif. Enfin, offensif. Finalement, il continue d'être dans la tradition de l'ONU, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, etc. Donc, lui, il a rappelé que l'activité de colonisation était un obstacle à la paix. Voilà. Il dit que c'est dans l'intérêt de personne. Je vais reprendre la phrase de Ban Ki-moon un moment. Il a dit que Ban Ki-moon préparait la guerre, carrément. Pas Ban Ki-moon, que l'État d'Israël préparait la guerre. Enfin, voilà. Il a des propos plutôt intéressants. Face à ça, le gouvernement israélien a accusé Ban Ki-moon de tenir des propos déséquilibrés et unilatéraux. Donc, voilà la réponse de l'État israélien. C'est un peu la même rhétorique qu'avait utilisé l'État hébreu quand ils avaient condamné le rapport de Richard Goldstone, ce juge sud-africain qui a fait un rapport sur la guerre dans la bande de Gaza, que Israël avait presque qualifié d'antisémite. On rappelle que Richard Goldstone, il est juif aussi, donc c'était assez drôle d'ailleurs ces attaques. Mais on rappelle que quand on est juif et qu'on fait des choses qui critiquent Israël, on n'est plus juif, on devient un traître. Hein. Il y a pas mal de traîtres aujourd'hui en Israël. Et c'est assez dur d'ailleurs à vivre pour ces gens qui ont une vision différente. Voilà. Et puis on a une dernière mauvaise nouvelle, tant qu'à faire. Hein. Donc c'est justement suite à l'enquête à la commission Goldstone, les différents ministres se sont réunis et puis grosso modo on a aujourd'hui le discours officiel de l'État d'Israël qui est de dire il n'y aura pas de commission d'enquête sur ce qui s'est passé. Voilà, en gros ce que dit aujourd'hui officiellement l'État hébreu. Donc c'est assez triste. Pour terminer, deux petites infos sur Israël-Palestine. La semaine dernière, on parlait un peu de BD hein, dans ce Canu Info. Il y aura plusieurs infos liées à la BD. La BD, c'est que la semaine dernière, j'avais parlé du dernier ouvrage de Joe Sacco, qui est un des plus importants BDistes journalistes, on va dire. Donc son ouvrage s'appelle Gaza 1956. Donc il est allé dans la bande de Gaza, essayer de faire parler les anciens, ceux qui ont souvenir de ce qui s'est passé en 1956. Ou 1956, où l'armée israélienne recherchait des fedaïm et des combattants égyptiens. Et donc à rassembler des gens dans des écoles, à massacrer, à tirer comme ça sur les hommes dans la rue, à séparer les hommes des femmes. Enfin, il y a tout un truc relativement horrible. Et donc, Joe Sacco a enquêté. C'est à la fois un livre d'histoire et un livre actuel, puisqu'il se met en scène, on le voit faire son enquête, on voit les gens et les Palestiniens lui dire « mais ça sert à rien, on s'en fout de ce qui s'est passé en 1956, aujourd'hui, on souffre, aujourd'hui, on est assassiné ». Effectivement, dans le livre, il y a les deux regards, puisqu'on voit l'armée israélienne détruire les maisons des gens qui sont trop près de la frontière avec l'Égypte. Je pense que si vous voulez avoir une idée de ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza, il faut lire ce livre, même si ce livre date de 3 ans, l'enquête elle a 3 ans, depuis ça a un petit peu changé, parce qu'il n'y a plus de colonies au sein de la bande de Gaza. Mais voilà, c'est vraiment très très bien, ce livre de Joe Sacco qui s'appelle donc Gaza 1956. Et puis la deuxième info, c'est la FPS, donc une asso qui défend le droit des Palestiniens en France, qui a saisi la HALD. Donc la HALD, c'est la Haute Autorité contre les discriminations. Donc ils ont écrit au président de la HALD, ils ont fait une lettre en demandant que la HALD soit saisie et qu'elle enquête sur une double discrimination faite par Nicolas Sarkozy. Donc ils attaquent directement le président de la République. Alors symboliquement c'est important, dans les faits le président est, je vous rappelle, inattaquable, hein, il peut tuer tous les gens qu'il veut dans la rue, il est inattaquable pendant le temps de son mandat. Mais alors ils expliquent, cette double discrimination, elle concerne Salah Hamouri. Donc c'est un Français qui est en prison en Israël depuis presque 5 ans. Donc ils expliquent pourquoi il y a une double discrimination, une discrimination relative aux opinions politiques, puisqu'en fait il est en prison pour un délit d'opinion, d'après les autorités israéliennes, puisqu'il refuse grosso modo l'occupation de son pays d'origine, qui serait la Palestine, si la Palestine existait. Donc voilà. Alors pourquoi il y a une discrimination du président de la République? Parce qu'un jour, Sarkozy il a déclaré vouloir aller au secours des Français, de tous les Français, en difficulté à l'étranger, et ceci quoi qu'ils aient fait. Donc un jour, il a dit ça. Alors, on le voit avec la jeune femme qui est en prison en Iran, il y a eu beaucoup de choses de faites. Ses parents ont été reçus à l'Elysée, il y a beaucoup d'actions diplomatiques. De même, Gilad Shalit, qui est le seul soldat israélien qui est prisonnier des Palestiniens, en fait, Gilad Shalit, il est franco-israélien. Sarkozy a reçu la famille, Sarkozy a fait des démarches diplomatiques pour essayer de faire libérer Gilad Shalit. Et ben pour Salah Hamouri, rien. Sarkozy refuse de recevoir la famille, et pourtant Salah Hamouri, il est même pas franco quelque chose, il est purement français, puisque la nationalité palestinienne n'existe pas. Donc, ils poursuivent, parce que Sarkozy, effectivement, il est discriminateur, il refuse d'appliquer ce qu'il a dit. Si on défend la Palestine et qu'on est français, on n'est pas défendable par Sarko. Voilà, donc ils ont saisi la HALD. Je suis pas sûr que la HALD aille plus loin que ça, hein, mais symboliquement, c'est important de le faire. Ensuite, toujours dans la région, on va parler de l'Afghanistan. Juste pour rappeler, vous avez tous entendu cette triste nouvelle, que on en avait déjà parlé ici, mais que c'est vraiment en passe d'arriver. Hamid Karzai, qui est paniqué, qui gère que le bout de Kaboul, là, le centre de Kaboul, est en train de tendre la main aux talibans en leur demandant de venir construire le nouvel État afghan. Donc il est prêt à s'allier aux talibans. Il a dit ça quand ? Dans une conférence qui a lieu à Londres sur l'Afghanistan, où il y a 70 pays, et tout le monde accepte ça finalement normalement. C'est assez drôle et triste de voir ça, puisque quand les talibans étaient au pouvoir, tout le monde condamnait les talibans, ce régime ultra-religieux, répressif, qui détruisait les grands bouddhas, là, ça avait été l'action symbolique qui avait déclenché quand même une réprobation internationale. Aujourd'hui, Karzai est paniqué, les Européens et les Occidentaux, grosso modo, savent pas quoi faire avec cette guerre qui n'en finit pas. Karzai se propose de s'allier avec le pire du pire, et eh ben on est d'accord. Donc voilà, ça n'augure que très peu de bonnes choses pour l'Afghanistan et pour le droit des femmes, puisqu'il y a, je crois, des femmes afghanes qui se sont élevées contre ce comportement. Voilà. Je crois que tu voulais parler d'Howard Zinn.
Ouais, est-ce qu'on a appris sa mort. 87 ans, hein, le monsieur, quand même.
C'était un peu un boss, quoi.
Ouais, c'est un historien, un politologue, selon là où on veut le classer, mais c'est surtout l'auteur de la très fameuse Histoire populaire des États-Unis, qui était sortie en 1980. Et c'est un ouvrage qui a été aussi mis en image, hein, puisqu'il y a une BD qui est sortie, je me souviens plus chez quel éditeur, mais tu vas peut-être me le redire.
Non, j'ai pas l'éditeur, mais c'est sorti il y a un peu plus de 6 mois. Ça s'appelle, c'est pas le même titre pour la BD. La BD, c'est une histoire populaire de l'Empire américain. Donc c'est encore plus offensif et c'est exceptionnel. Alors moi j'ai pas lu l'ouvrage d'origine, mais j'ai lu la BD, et c'est effectivement exceptionnel, parce qu'on apprend des millions de choses sur les exactions des États-Unis, à commencer par les Philippines, hein, où ils ont commencé il y a un peu plus d'un siècle à avoir un comportement colonialiste inadmissible, et ça s'est poursuivi comme ça, bon, avec les Indiens, ça on le savait tous. Enfin, il y a plein de choses. On parle beaucoup des grèves, des mouvements ouvriers. C'est vraiment le livre d'histoire le plus intéressant sur les États-Unis qui doit exister, parce que il y a un parti pris de pas se contenter de l'histoire officielle, c'est-à-dire Washington, machin, de tel grand président qui fait ça, l'assassinat de Kennedy, les trucs qui sont finalement presque anecdotiques, mais qui construisent pas réellement l'histoire américaine. Là, lui, il s'est occupé de l'histoire américaine dans le vrai sens du terme, celle qui n'est quasiment plus enseignée ou pas enseignée aujourd'hui, ni en France, ni ailleurs. Voilà, cette histoire-là, elle ressort dans son livre. Donc c'est vraiment une somme et un monument, et c'est triste. Et il n'était pas que politologue et historien, c'est un vrai militant engagé, puisqu'on l'a vu se battre contre la guerre en Irak. Les deux fois, la première guerre en Irak, qui avait fait quand même consensus un peu partout dans le monde, mais pas tant que ça, et puis sur la deuxième. Tu avais autre chose à dire? J'ai tout dit en fait. Je t'ai piqué la parole.
C'est pas bien grave, ça avait l'air de te faire plaisir de parler.
Non, mais quand j'ai lu, moi j'en avais jamais entendu parler avant de lire cette BD. C'est mon côté BDophile et vraiment j'ai été estomaqué.
Enfin, vous pouvez lire, hein, sur les images aussi, c'est très très bien. Un peu gros, mais c'est très très bien.
Voilà, ça doit même être encore mieux, puisqu'il doit y avoir encore plus d'informations dans le vrai livre, avec sans les images. Oui, sinon je voulais continuer avec une info qui nous est venue par Amnesty International, qui date du début de la semaine. C'est Amnesty qui s'offusque d'une condamnation dans le pays ami qu'est l'Arabie Saoudite, hein, qui est un pays avec lequel le gouvernement français fait du commerce, les entreprises font du commerce. Donc, a priori, tout le monde est bien content de travailler avec l'Arabie Saoudite, sauf que c'est quand même un pays avec un régime politique horrible. Là, on a une jeune fille de 13 ans qui a agressé un de ses professeurs et qui a été condamnée, elle avait 13 ans, écoutez-moi ça, à 2 mois de prison et 90 coups de verge. Donc, de coups de bâton, c'est ça. 90 coups de bâton pour une fille de 13 ans. C'est quand même
la... C'est du fouet, en fait.
C'est du fouet, oui, tout à fait. C'est vraiment l'apocalypse. Ça fait suite à une condamnation qui avait déjà eu lieu en décembre pour une, qui avait un peu outré, déjà, Amnesty, puis peut-être quelques autres, sur une femme qui avait été condamnée à 40 coups de fouet et 4 mois de prison. Elle avait quand même 75 ans. Et c'est pour, un truc horrible. C'est pour le truc qui s'appelle la Kilwa. Donc, reconnu coupable de Kilwa. Le Kilwa, c'est quand on est dans la rue, seul avec quelqu'un de l'autre sexe. Donc, on est condamné à 40 coups de fouet pour une femme. Pour un homme, c'est aussi horrible, ceci dit. Donc voilà, c'est vraiment l'apocalypse. Aujourd'hui, les châtiments corporels, tels que la flagellation, sont pratiqués par l'Arabie Saoudite. Mais bon, voilà, l'Arabie Saoudite étant l'ami des États-Unis, l'ami de Nicolas Sarkozy, il n'y a aucune condamnation internationale des pratiques de cet État totalitaire.
Oui, et puis moi, je voulais revenir sur l'évêque Richard Williamson.
Ah ouais, moi je l'aimais bien, lui.
Vous savez, c'est...
petit nazillon, là.
Voilà, alors je vous rappelle, il fait partie de l'organisation catholique... la Fraternité Saint-Pie-X, hein, un truc intégriste. Assez important, puisqu'ils sont quand même présents, je crois, dans une trentaine de pays, dont la France. Hein. Il avait dit, donc, à la télé suédoise, 200 000 à 300 000 juifs ont péri dans les camps de concentration, mais pas un seul dans les chambres à gaz. Eh ben, la justice allemande, elle l'avait donc condamné à une amende de 12 000 euros. Et il a fait appel, il veut pas payer, donc du coup, maintenant dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Il est convoqué par la police, et donc ça va se passer, par la justice, pardon. Il est donc convoqué le 16 avril prochain, pour incitation, donc... à la négation de l'Holocauste, haine raciale, voilà, c'est un délit quand même qui est passible de 5 ans de prison.
Oui, alors que hier, je crois que c'était aujourd'hui, c'était l'anniversaire de la libération d'Auschwitz-Birkenau, et il y a eu au moins 1 million de morts à Auschwitz-Birkenau, enfin plus 1 million de morts et 1 million de juifs assassinés à Auschwitz-Birkenau.
Ouais, puis c'est quand même un évêque qui avait fait beaucoup polémique, hein, puisque au-delà de ses propos, il fait partie des personnes que Benoît XVI
avait réhabilité.
Voilà, Benoît XVI a levé l'excommunication qui frappait plusieurs prélats, et dont Richard Williamson. Voilà, donc on espère que la justice va saisir.
Ouais, finalement, 12 000 euros d'amende, c'est presque pas beaucoup.
Non.
Moi, je l'obligerais, je sais pas, à nettoyer des tombes, à faire des visites d'Auschwitz pendant 10 ans, tous les jours, à des enfants, en expliquant ce que c'était, quelle horreur c'était. Voilà, pour qu'ils
comprennent. Vu le monsieur et vu la hiérarchie du Vatican qui le continue à le couvrir, on peut penser qu'il recommencera.
En plus, c'est un récidiviste. Donc voilà, un petit mot horrible aujourd'hui, encore une fois, sur le Honduras. Donc on a le nouveau président élu avec très peu de voix finalement, puisqu'il y a eu une énorme abstention suite au coup d'État. On vous en a pas mal parlé dans ce Canu Info, coup d'État du 28 juin. Là, il a pris ses fonctions donc hier. Et comme signe un peu de grand, il a dit, moi je peux pas diriger un État quand même avec l'ancien président enfermé dans, en prison, puisqu'il est, l'ancien président est réfugié dans l'ambassade du Brésil. Donc il l'a amené lui-même jusqu'à la base aérienne, une base aérienne où il a pris, l'ancien président, un avion pour Saint-Domingue, puisqu'il est expulsé de son propre pays quand même, faut le dire. Donc voilà, donc le nouveau président qui a été élu mais qui a du sang sur les mains, ça fait suite au vote du Congrès, hein, qui a fait voter une amnistie générale contre pour le coup d'État et pour la crise politique qui s'en est suivie. Donc tous les assassinats, les tabassages, les tortures, tout ça, c'est oublié déjà. Ça va très vite aujourd'hui, hein, les amnisties, hein. C'est quelques semaines après le coup d'État, hop, c'est fini. Le plus triste dans tout ça, c'est que jusqu'à maintenant, malgré cette élection pseudo-démocratique et l'arrivée donc de Lobo comme président, la communauté internationale s'est pas jetée au pied du Honduras en disant « Ah oui, vous êtes à nouveau fréquentable ». Donc ils sont pas contents. Et donc, justement, en essayant d'être un peu sympa avec l'ancien président, en l'expulsant, mais dans un pays ami, ils espèrent attirer à nouveau le regard bien intentionné de la communauté internationale. Et c'est presque fait, puisqu'il y a déjà des gens importants aux États-Unis qui disent que maintenant, le Honduras va mieux, il va de l'avant, donc il faut à nouveau collaborer avec lui. On va vite oublier le passé. Voilà, un coup d'État. Hop, on continue de collaborer avec ce président qui est finalement issu du coup d'État, même d'une manière pas tout à fait directe, mais presque. On va parler un peu de la France. T'as d'autres infos internationales ?
Oui, je voulais juste revenir sur le Chili, puisque le nouvel homme du pays, hein, Sébastien Piña, eh ben il est pas content de son salaire. En fait, ce qu'il est en train de faire, c'est doucement d'essayer d'habituer les Chiliens au fait qu'il va pas lâcher son portefeuille d'actions et de participation. Sa fortune, elle est estimée à plus d'un milliard de dollars, hein, puisqu'il est, il a des participations dans un sacré paquet d'industrie chilienne et ailleurs. Donc, évidemment, au début, il devait abandonner tout ça, puisqu'il y a peut-être quand même un petit peu un conflit d'intérêts, hein, on peut le dire, entre ce monsieur entrepreneur extrêmement riche et les missions qui lui sont données aujourd'hui. Voilà, mais non, il se plaint. Donc, son salaire de président ne va pas suffire subvenir à ses besoins, parce que vous comprenez, pour être là où il en est, il a quand même eu beaucoup de prêts, de machins, d'engagements financiers, donc il peut pas tout laisser tomber comme ça.
Voilà, s'il avait pas envie de ce salaire-là, il était pas obligé de se présenter à ce poste-là, et puis les Chiliens étaient pas obligés de voter pour lui, mais ça c'est un autre débat. On va passer à l'actualité française avec l'affaire du jour, hein. Si vous regardez les news aujourd'hui, 90% des infos qui tombent sur la France parlent de Clearstream. Eh oui. Dominique Galouzeau de Villepin, ancien noble que la Révolution française a oublié de guillotiner, au moins le nom en tout cas, toujours présent, a été donc relaxé dans cette affaire que personne comprend finalement, c'est tellement tordu, on ne sait pas qui tire sur qui. Ce qu'on sait, c'est que Sarkozy a beaucoup tiré sur Villepin et que Sarkozy est déçu de cette relaxe. Donc voilà, on notera que Gergoin, le vice-président de ADS, moi c'est le truc qui me fait plaisir, hein, c'est qu'il est condamné. Voilà, un ancien patron qui est condamné, ça fait toujours quelque chose, un petit pansement au cœur. 21 mois avec sursis, 40 000 euros d'amende pour dénonciation calomnieuse, recel d'abus de confiance et usage de faux. Pas mal. Et puis le célèbre Imad Laoud, l'informaticien, lui aussi a été condamné. Ce qui est beaucoup plus intéressant dans tout ça finalement, c'est que le journaliste qui a beaucoup enquêté sur Clearstream et qui est un des seuls à présenter le truc pour qu'on comprenne un peu comment ça se passe et quel était l'enjeu derrière Clearstream avant la manipulation franco-française, politico-française, c'est Denis Robert. Il était poursuivi pour recel d'abus de confiance et recel de vol, et il a été lui aussi gracié, enfin pas gracié, mais relaxé. Donc voilà, ça fait plaisir. Si vous voulez des infos, il existe, c'est spécial BD aujourd'hui, hein, il existe une BD en deux tomes pour l'instant, et le troisième tome qui sera le dernier sortira d'ici la fin de l'année. Ça s'appelle L'Affaire des Affaires. Donc au scénario, on retrouve naturellement Denis Robert et au dessin, Laurent Astier. Voilà, en deux tomes pour l'instant. C'est vraiment très intéressant parce que ça met en scène la vie de Denis Robert. On voit ce que c'est qu'un métier de journaliste dans un truc aussi complexe qui mélange les services secrets, qui mélange la haute finance, qui mélange les banques suisses, tout ça. Et je ne sais plus. Et l'enquête réelle journalistique autour de Clearstream. Et puis une dernière petite info française avant de passer au sujet, on n'a pas parlé, mais au gros sujet du jour, avec le commissariat général au développement durable. je savais pas que ça existait, mais c'est un truc français, qui publie son rapport sur la consommation française des matières premières pour l'année 2007. Bon, il leur faut 2 ans hein, pour calculer les trucs, donc on a l'état de 2007. Alors, il nous explique un peu, aujourd'hui, combien la France importe de produits pour subvenir à ses besoins. Alors, il nous explique que depuis les années 90, il y a une augmentation à peu près régulière de 0,5% par an de consommation, notamment de matières premières. Alors, les matières premières, hein, c'est le cuivre, le fer, tout ça, mais c'est aussi le pétrole, l'uranium, tout ce dont on a besoin pour l'industrie et puis pour notre consommation. Alors, ils ont fait des calculs pour savoir, par Français, combien on consomme de matières premières par an, et c'est apocalyptique, parce qu'aujourd'hui, un Français, en moyenne, consomme 30 tonnes de matières premières. 30 tonnes, c'est énorme. Faut imaginer le truc. Et il y en a 11,5 tonnes qui viennent de France, hein, qui sont tirées du potentiel de la terre, de l'air et de l'eau française. Donc ça en fait beaucoup d'importés, hein. Ça fait 28,5 tonnes par habitant qui est importé. Alors ils font cet état des lieux, qui est triste parce que ça fait un gros trou dans le commerce extérieur. Alors par contre, il n'y a pas de solution apportée. Alors les solutions apportées, on les connaît, on peut les redire. D'abord, il faut beaucoup moins consommer des produits qui sont durables. C'est sûr que si on achète un pull fabriqué en Chine avec de la laine pourrie, il va durer 2 ans. Tous les 2 ans, on achète un pull. Si on achète un pull de qualité, il dure 10 ans. Donc voilà, il y a plein d'exemples comme ça pour moins consommer de matières premières. Ensuite, essayer de consommer des choses qui sont produites, qui sont issues du terroir local. Par exemple, aujourd'hui, il vaut mieux implanter des éoliennes qui consomment du vent qui existe chez nous, donc on n'importe rien, plutôt que de construire des centrales nucléaires où 100% du combustible, qui s'appelle l'uranium, est importé. Donc voilà, il y a plein d'exemples comme ça qu'on pourrait citer qui permettraient de diminuer la facture de ces matières premières consommées par les Français. Voilà, c'est le chiffre. Moi, je ne m'attendais pas à ce que je consomme, moi, 30 tonnes pour une année de matières premières. Bon, peut-être que je consomme moins que la moyenne, mais voilà. Oui, dans ces tonnes, il y a le pétrole, donc effectivement, je consomme beaucoup moins que la moyenne.
Ouais, alors aujourd'hui, moi, j'allais vous parler des titres restaurants, parce que c'est un petit peu dans l'actualité, puisque au 1er mars, nous n'allons plus pouvoir utiliser les titres restaurants de la même manière que nous le faisions jusqu'à présent, et particulièrement dans tous les supermarchés, puisque peut-être que certains d'entre vous vont faire leurs courses avec les titres restaurants en supermarché. Alors, je dis titres restaurants puisque c'est le nom.
Moi, j'étais normal. Resté au ticket restaurant, ouais. Mais en fait, ça, c'est une marque.
C'est comme le sopalin. C'est une marque. Donc, c'est une marque qui a réussi à très, très bien s'implanter. On y reviendra. Alors donc, il y a en fait une charte qui a été signée entre la Fédération des entreprises du commerce et de la distribution, hein, qui regroupe aussi les principaux gros comme Auchan, plus Leclerc, Intermarché qui n'en font pas partie, et la Commission nationale des titres restaurants. Donc ils ont signé cette charte le 12 février 2009, l'année dernière, et là normalement, 1er mars 2010, ça y est, tout doit être appliqué. Alors certains supermarchés avaient déjà commencé un petit peu à réguler les choses, c'est-à-dire que vous allez plus pouvoir acheter votre papier toilette avec un ticket restaurant. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut bien se rendre compte que le ticket restaurant, c'est un outil qui est très encadré. Hein. C'est encadré par le code du travail. C'est pas un moyen de paiement comme ça, commercial. Non, non, c'est très très encadré. Il y a un paquet d'articles qui correspondent à ce sujet-là. Alors, si vous voulez, c'est un système qui a été mis en place en 67 sous De Gaulle, hein, et avec Pompidou. L'idée, c'était de régulariser, d'officialiser ces tickets, ces chèques et ces titres restaurants qui étaient apparus depuis déjà 1957 en France. Hein, il faut savoir que dès 1913, l'État a imposé aux patrons d'accueillir et de nourrir correctement les salariés. Et peu à peu, comme ça, les choses se sont un petit peu aménagées sur le temps de repas. Et donc les tickets restaurants, les chèques restaurants, vous voyez moi-même, c'est difficile de s'y faire à dire titre, vont s'imposer. Hein, il y a plusieurs entreprises qui vont se créer sur les années 60, jusqu'à devenir pour certains des monstres aujourd'hui. Alors c'est un financement, hein, si vous connaissez pas, c'est un cofinancement, puisqu'il y a une partie qui est prise en charge par l'employeur, entre 50 et 60%, l'autre par le salarié. C'est très encadré par le Code du travail, comme je vous le disais. Je vous rappelle qu'il est interdit, normalement, hein, de prendre son repas sur son lieu de travail, sur son bureau, par exemple. Ça, vous n'avez pas le droit. On doit... je vois que tu tords du nez. Mais normalement, soit il y a un réfectoire, ouais, nous, une cantine, ou alors il y a une salle réservée à cet effet. Hein, c'est à partir de 25 salariés. Si vous ne l'avez pas, vous devez réclamer. C'est la loi. Il y a un local qui adapté qui doit être prévu. Il faut savoir aussi que le patron, il obtient quand même quelques exonérations fiscales, forcément, en ayant ses titres restaurants. Alors, par exemple, finalement, on s'aperçoit qu'on connaît pas bien comment ça marche, cette chose. Hein. Alors, par exemple, est-ce qu'on peut rendre de la monnaie sur un ticket resto?
Ouais, je crois pas, j'ai déjà vu des gens
C'est complètement interdit. Qu'est-ce qu'on peut acheter, du coup, maintenant,
avec un
titre resto? Alors, non, puisque comme c'était très encadré et que c'est apparu pour une chose très précise, hein, c'était aménager les moments de repas des salariés, c'est fait normalement acquitter un repas. Point. Le prix d'un repas, ou alors, maintenant, parce que les choses ont changé, c'est l'achat de préparation alimentaire immédiatement consommable.
C'est-à-dire le sandwich,
truc. Voilà, les salades sous vide, toutes ces choses-là. Donc c'est ce que les supermarchés vont pouvoir continuer à être payable, si vous voulez, avec les titres restaurants. Donc ça se réduit, parce que jusqu'à présent, vous pouviez vraiment en donner plusieurs. C'était certains supermarchés, en plus, c'était très très flou. Hein. Vous alliez à certains endroits, ils en prenaient deux. Ailleurs, c'était illimité. Vous pouvez payer tout votre caddie. Maintenant, ça va être limité. Alors, c'est à deux. Mais c'est deux si jamais vos tickets, ils sont normalement de petites sommes. Ce qui veut dire, encore une fois, on va être quand même beaucoup dans le flou. La question évidemment qui est amenée, c'est de savoir si jamais il pourrait y avoir un contrôle sur ça. Alors il paraît que dans la charte, ils se sont engagés, les supermarchés, les grandes surfaces, à ce que les caisses aient une programmation qui reconnaisse les produits qui peuvent être payés avec les tickets restaurants et avec les titres restaurants. On verra s'ils arrivent vraiment à mettre ça en place. Alors, est-ce qu'on peut par exemple utiliser ces titres restaurants, le dimanche, hein?
Je sais pas.
Eh ben non.
Ouais, il faut que ce soit sur un jour ouvré.
Et oui, puisque comme c'est au moment de votre repas, vous en avez un par jour travaillé dans le cadre, vous avez une pause repas. Donc, si jamais vous travaillez le dimanche, ça doit être inscrit sur votre ticket restaurant, votre titre restaurant, que vous pouvez l'utiliser le dimanche ou les jours fériés. Non, mais c'est quand même des choses qui sont très précises. Tout ça, franchement, allez dans n'importe quelle boulangerie le dimanche matin et vous verrez les gens payer avec les titres restaurants. Hein. Et alors, est-ce qu'on peut utiliser un titre restaurant n'importe où en France?
Bah oui.
Bah non. C'est pareil. C'est que dans le département ou les départements limitrophes.
Ah, de là où, parce qu'il y a.
De là où on travaille, ah ouais. Exactement. Et il faut savoir que si jamais vous vous déplacez, donc pour des raisons de travail, et vous avez des titres restaurants, c'est pareil. Il faut que ça soit posé sur vos titres restaurants que vous êtes mobile. Voilà. Donc c'est des choses qui sont très 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 précises. Hein. Alors maintenant, il y a et le secteur public et le secteur privé qui sont concernés. Mais pendant très longtemps, ça a été que les travailleurs du privé qui y avaient droit. Et puis c'est la loi Sapin qui a fait changer les choses sur cette question-là, avec une loi de finances à l'époque aussi, qui ont permis, par exemple, dans une collectivité territoriale, aux fonctionnaires d'avoir droit au titre restaurant. Alors, et le personnel intérimaire, alors, est-ce qu'il y a un droit? Bah oui, puisque je vous rappelle, hein, quand vous êtes en intérim et que vous remplacez quelqu'un,
dans la boîte,
Si jamais c'est votre cas, vous remplacez quelqu'un, bah vous devez avoir tout ce que la personne a, que celle que vous remplacez. Donc vous avez droit. Alors normalement, si j'ai tout compris, hein, c'est la société d'intérim hein, qui doit émettre ses titres restaurants. Pour les salariés du BTP, il y a une convention très particulière, ce qui fait qu'il y a une possibilité aussi de parfois de cumuler avec le panier repas. Donc vous voyez, il y a aussi quelques spécificités sur lesquelles il faut évidemment un petit peu s'informer hein, selon ces conditions de travail. Et alors la question c'est aussi, est-ce qu'on a le droit de refuser?
Oui, non.
Bah si, bien sûr. Vous pouvez refuser tout à fait de bénéficier des titres restaurants et décider que la cotisation que vous mettez dedans, vous allez la garder pour vous. Alors, la valeur moyenne en France, hein, elle est un peu plus autour de 6 euros, un peu au-dessus. C'est un petit peu les chiffres. Il y en aurait près de 600 millions échangés en France, hein, c'est pas mal. Près de 3 millions utilisés par jour. Donc ça se développe. Alors ils essayent surtout de se développer maintenant, pardon, sur plutôt les PME, parce qu'évidemment toutes les grosses entreprises ont ce système, soit d'accueil réfectoire, soit de titre restaurant. Mais c'est surtout évidemment sur les plus petites qui sont en train de se battre et de se faire une grosse concurrence, puisqu'il faut savoir qu'il n'y a pas 36 entreprises qui font ça.
C'est un truc qui était pour aider le salarié, enfin qui était un peu une aide effectivement pour le salarié. Et tu veux dire qu'il s'est construit du capitalisme des gens qui gagnent de l'argent sur cette aide-là?
Bah écoute, quand je vais te parler des quatre entreprises qui sont agréées,
il y en a une que je connais.
Il y en a une que tu connais, on finira par celle-là. Alors il y en a une, c'est Groupe Chèque Déjeuner, c'est un truc qui à la base était monté en structure coopérative, hein, ça date de 64. Donc avant la loi de 67. Alors eux, ils ont plusieurs activités, évidemment, ils ont donc ce chèque déjeuner chez eux, mais ils font aussi partie de toutes ces entreprises qui maintenant ont le chèque CESU, le chèque Lire, le chèque Disque, le chèque Culture.
Il y a le chèque Vacances aussi pour certains.
Ceux-là, ils l'ont pas. Mais ensuite, ils ont un deuxième pôle d'activité, qui est le pôle service, comme ils disent. Alors, ils font la télégestion, pardon, avec Domatel. Ils font la solution Internet. Et puis, c'est eux qui font les mises à jour des cartes vitales. Donc, vous voyez, c'est quand même un groupe assez important. 1250 salariés et un chiffre d'affaires qui était autour de 2,5 milliards, hein, quand même, c'est pas mal.
Et c'est plus du tout une structure coopérative.
Alors ça, je sais pas, parce que à la base, je crois qu'ils sont... J'ai comme un doute, en fait. C'est en me relisant sur mes notes que j'ai un petit peu... Là, tu mets une petite colle. Ouais. Mais alors, il y en a d'autres, par exemple, rien à voir avec le coopératif. Hein. C'est Natixis Intertitres. Alors Natixis, c'est un groupe qui est récent, hein, mais c'est un groupe qui vient de quoi? De Banque Populaire. Donc c'était déjà Banque Populaire avait racheté à d'autres avant, ça avait été une fusion, donc c'est un énorme truc. Je vous rappelle que Natixis, le groupe, hein, c'est plus de 22 000 salariés et que c'est dans 68 pays. Hein, et que c'est le seul acteur de la banque qui est agréé par les pouvoirs publics pour proposer donc ces titres restaurants. Mais ils font pas que ça, hein. Ils font aussi les CESU, les chèques cadeaux. Vous voyez, ils cumulent tous un petit peu les choses. Et puis, alors il y en a après les très gros, hein. Donc le Ticket Restaurant, c'est donc qui c'est Accor. Accor, donc la filiale Accor Service, d'accord. Hein, cet énorme groupe de l'hôtellerie et du tourisme. Alors eux, ils nous disent avoir très peu finalement de salariés en France sur Accor Service, puisqu'il y en aurait à peu près un peu plus de 700. Par contre, dans le monde, c'est plus de 5000. Donc vous voyez, tout de suite, ça prend de l'ampleur. Ils sont dans 40 pays. Donc les titres restaurants, c'est pas qu'un truc français. Hein, on le trouve un petit peu de partout. Et puis eux, c'est pareil. Hein, ils développent toute une gamme aussi à côté. Et puis alors, évidemment, hein, boîte préférée.
Ceux qui nourrissent les prisonniers américains.
Ouais. Parce qu'avant de finir par eux, je suis sûr que vous avez déjà reconnu, c'est qu'il faut bien comprendre que l'entreprise, elle va adhérer... elle va cotiser, pardon, elle va avoir donné un pourcentage sur les chèques pour le traitement. C'est-à-dire que c'est pas gratuit.
Oui, c'est pour ça qu'il y a du capitalisme, c'est-à-dire il y a des gens qui vont gagner de l'argent sur ces chèques-là.
Alors donc, plus vous voulez le remboursement rapide, plus le pourcentage est élevé, plus vous en avez aussi, plus c'est dégressif, hein, c'est comme toujours. Et puis en plus, après, il y a donc la CRT, hein, c'est la centrale de règlement des titres qui a été créée en 72 par ces entreprises. Elle gère encore tout ça, donc elle prend aussi de l'argent. Vous voyez, donc finalement, les petits commerçants, ils vous disent que c'est pas forcément rentable. Ça fidélise les clients, ça leur assure une certaine chose. Alors, ils font de l'argent après sur ce qu'ils vendent.
Ils peuvent pas le refuser non plus, donc c'est compliqué.
Ah, s'ils peuvent. Enfin, si, je veux dire, il faut une inscription, hein, puisqu'il faut rentrer dans le cursus.
Mais c'est, on imagine bien dans des endroits où il y a beaucoup de bureaux, ça serait suicidaire de pas
l'accepter. Ouais, c'est comme refuser la carte bancaire. Les commerçants qui le font un choix.
Finalement,
parce qu'ils ont un pourcentage dessus.
Ces titres, c'est une nouvelle forme d'argent.
Alors ça l'est pas, hein, par la loi, être très très clair, c'est pas de la monnaie, mais c'est quand on lit un petit peu la presse patronale sur cette question, ils essayent de faire passer ça comme une augmentation finalement sur le salaire, alors que c'est pas ça. Les gens qui vont dire qu'ils vont perdre du pouvoir d'achat en ne pouvant pas faire leurs courses avec leur titre restaurant au supermarché, c'est évidemment une erreur d'agir comme ça. Alors, je comprends bien, hein, c'est des sous qu'on perd au quotidien, juste qu'il est fait pour manger pendant son temps de travail et pas pour essayer de pallier au fait qu'on a un salaire qui est trop bas. Et donc, voilà, comme il est exonéré le patron, évidemment, il essaye de sortir tout plein de petites choses, comme le titre restaurant, du salaire. Pour essayer d'améliorer soi-disant le confort de ses salariés. Enfin, voilà, on est en train de lire un petit peu cette propagande, hein, quand même, dans la presse patronale, de comment améliorer le confort, le petit à côté. Voilà, au lieu d'avoir des primes qui elles peuvent être imposées, fiscalisées, le ticket restaurant et toutes ces choses peuvent être intéressantes. Alors la dernière?
Sodexo.
Hein, on vous rappelle Monsieur Bellon, hein, Pierre de son prénom, hein, c'est toujours le leader mondial des services de restauration collective et de facility management, comme ils disent. Hein, ils sont partout, dans les prisons évidemment, à l'école, hein, dans les entreprises, à l'hôpital, chez les personnes âgées, partout.
Sauf dans les restaurants 4 étoiles. Je crois qu'il n'y a pas de Sodexo.
Ah, écoute,
je crois que la bonne bouffe, elle n'est pas chez Sodexo, en fait, ça veut dire ça.
C'est 25 000 salariés, hein. Sodexo, quand même, c'est un truc énorme. 1 million d'utilisateurs, de chèques et cartes de service. Plus d'un million de consommateurs de leur repas. On les plaint, c'est plus d'un million. C'est un truc énorme. Et c'est quand même voilà quatre géants qui tiennent ce marché. Ils sont agréés, donc ils sont aussi finalement assez tranquilles sur tout ça. Alors je voulais terminer un petit peu parce que j'avais pas de chute. Hein, je suis désolé sur ce sujet, mais je vais finir de taper sur Sodexo.
Vous me
permettez, hein, puisque aujourd'hui il y avait un rassemblement des salariés devant le siège de l'entreprise à Oullins. Puisqu'il faut savoir que c'est une entreprise où on vous l'avait raconté longuement il y a déjà quelques mois, les conditions de travail sont assez horribles. Hein. Ah, puis d'ailleurs, tiens, j'ai appris que c'était le, tu sais que c'est toujours encore le fournisseur du Dakar.
Sodexo.
Ouais, super. Ça te fait plaisir. Hein. Alors, Sodexo, qu'est-ce qu'ils ont fait pour énerver les salariés? Ben, ils ont créé une association qui était censée venir en aide aux salariés en détresse, en difficulté, puisque il faut savoir qu'il y a eu un suicide d'une salariée. Donc les conditions de travail sont assez mauvaises. Hein. Il y a pas que France Télécom,
Renault et autres.
Voilà, chez qui ça va pas bien. Sodexo c'est une multinationale, donc ça va pas bien. Le truc c'est que l'association c'est du foutage de gueule puisqu'elle est composée que de membres de la direction de Sodexo. Je vous laisse entendre que l'anonymat il n'en est pas question, que l'indépendance des rencontres et des analyses il n'y en a pas. Donc les syndicats, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent au boycott de cette association et renvoient les salariés vers les instances qui existent. Hein. Il y a un comité d'établissement, il y a des syndicats, il y a l'inspection du travail, voilà, de trouver malheureusement d'autres outils que cette association qui ne servira pas à grand-chose. Et puis, pour finir de les enfoncer, il faut savoir qu'il n'y a pas qu'en France où ça râle, puisque lors de l'AG des actionnaires, les syndicats américains des États-Unis d'Amérique et britanniques sont venus foutre le bazar pour dénoncer les conditions de travail et surtout les pressions antisyndicales très fortes que Sodexo mène, particulièrement aux États-Unis. C'est des menaces de licenciement, mais assez violentes, du harcèlement. C'est 12 000 salariés hein, quand même aux États-Unis. Ça fait déjà un petit moment qu'ils dénoncent ce fait. Ils sont soutenus évidemment par les syndicats français, hein, CGT, CFDT. Ils continuent à se battre. Ils ont établi une charte tous ensemble et attendent que Sodexo veuille bien répondre à leurs appels et des conditions de travail décentes. Et puis surtout qu'ils leur permettent enfin de créer des syndicats, puisque pour l'instant il y a des endroits Sodexo refuse l'implantation des syndicats.
Aux États-Unis.
Exactement.
Le Canu Info, Radio Canu.
Voilà, on reprend ce Canu Info dans la dernière rubrique, on va dire, la rubrique écologie-environnement. Et oui, nous sommes les seuls à la faire réellement. Non, on ne doit pas être les seuls quand même. Oui, on va parler d'environnement avec le truc qui a beaucoup énervé les écolos et puis qui va commencer à beaucoup énerver les Français, puisque EDF a demandé d'augmenter ses tarifs de 24%. Et oui. Donc on rappelle d'où ça vient. La production électronucléaire réclame des investissements extrêmement lourds. que le lobby nucléaire avait, jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a 4-5 ans, réussi à faire financer par des aides, notamment toute la recherche a été payée par le contribuable français. Enfin, voilà, mais maintenant, ça, avec l'ouverture à la concurrence, c'est plus possible. EDF doit assumer partiellement, alors il l'assumait pas du tout avant, maintenant il l'assume partiellement, le coût du développement d'une filière nucléaire. Et ce coût-là, il est énorme. Donc on a besoin d'augmenter les tarifs. Donc EDF reconnaît implicitement que le nucléaire a un coût abyssal qui jusqu'à présent a été largement sous-estimé. Pire, je rappelle que le juste prix du nucléaire n'est toujours pas pris en compte puisque le démantèlement des vieilles centrales, la gestion des déchets nucléaires, la protection policière et militaire des centrales, la gestion des déchets, j'ai déjà dit, les réseaux de lignes à haute tension, tout ça, c'est toujours financé par des entreprises, par la collectivité nationale. Donc EDF échappe toujours à tous ces frais qu'il devrait payer normalement. Donc voilà, on est en train de payer l'implantation du nucléaire massif dans les années 70 en France. Et puis là, j'ai récupéré une enquête de l'UFC Que Choisir sur le bio, et le bio notamment vendu dans la grande distribution. Donc l'enquête, elle a un côté intéressant, elle a un côté, je comprends pas ce que c'est que changer de type d'alimentation. Alors on va commencer par le premier aspect. Donc ils sont allés enquêter dans 1624 magasins de la grande distribution. Donc ils ont dû faire le tour des Carrefour, Auchan, tout ça, et ils ont regardé les prix des bio. Alors ils se sont rendus compte que dans le panier, si on prenait des produits bio comparés à des marques normales, c'était à peu près 22% plus cher le bio. Par contre, si on prend du bio version marque de distributeur, c'est 57% plus cher que l'équivalent dans la marque du distributeur. Et là, ils ont commencé à se dire, mais comment ça se fait que ça soit 50% plus cher? Et ils ont fait des enquêtes sur les pommes, par exemple, bio, Carrefour. Alors, c'est pas Carrefour, ils ont pas donné la grande surface. Une grande surface, 50 centimes d'euros de bénéf sur un kilo de pommes standard et 1,09€ de bénéf sur un kilo de pommes bio. Donc ils ont deux fois plus de bénéf. Pareil sur les carottes. Carottes conventionnelles, polluées, 80 centimes de bénéfice. 1,33€, donc 53 centimes de plus de bénéfice pour leur équivalent de bio. Donc en fait, ils se sont effectivement rendus compte que le bio était plus cher, pour des raisons inhérentes au mode de production. Il y a deux choses qui font. Il y a un, quand on produit en bio, on produit moins. Donc c'est un peu normal que les prix soient un peu plus chers si on veut être rentable. Et puis deux, on rappelle que dans le cadre de la politique agricole commune, quasiment aucune exploitation bio n'est aujourd'hui subventionnée. Alors que les exploitations polluantes, elles, sont subventionnées. Donc ça explique un peu les 20% à peu près d'écart qu'il y aurait normalement entre du bio et du non-bio, ce qui est une marge raisonnable. Mais donc derrière tout ça, on voit, bon, donc le premier truc, c'est effectivement la grande distribution continue de jouer son rôle de voleur, c'est-à-dire qu'il y a un truc à la mode, parce que le bio aujourd'hui c'est à la mode, ça fait 30 ans qu'il y a des gens qui mangent du bio, mais ça fait 10 ans que c'est à la mode. Depuis que c'est à la mode et que la grande distribution en fait, et certains pensaient que ça serait une bonne chose que la grande distribution en fasse. Sauf que le fait que la grande distribution en fait, ça fait gagner plus d'argent que le non-bio à la grande distribution, en pourcentage. Donc voilà, cette enquête dénonce ça. Mais ce qu'oublie de dire cette enquête, c'est que normalement, les gens qui se tournent vers le bio réfléchissent à leur consommation. Donc, une partie des gens vont pas acheter en grand magasin, mais même s'ils achètent en grand magasin, quand ils ont réfléchi à leur consommation, ils ont changé. Normalement, par exemple, ils consomment beaucoup moins de viande. Normalement, dans la majorité des gens qui aujourd'hui consomment majoritairement du bio, qui sont posés des questions, effectivement, la viande devient un produit exceptionnel. Et dans ces cas-là, manger du bio ne revient pas plus cher. Si on remplace les protéines animal par des protéines végétales, ça revient pas plus cher. Donc l'idée de dire que le bio est plus cher, c'est si effectivement, dans l'alimentation déséquilibrée qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire manger de la viande à tous les repas, etc., si on fait l'équivalent en bio, si on reproduit en gros ce mode de consommation idiot et destructeur en bio, ça nous coûte plus cher. Par contre, si on change complètement, ça peut nous revenir à peu près au même prix. Donc voilà, faut pas oublier ça. C'était pas le but de l'enquête, et donc c'est ça, et ça y est effectivement pas. Je voulais parler aussi d'éoliennes. Est-ce que tu sais quel est le pays qui produit le plus d'énergie électrique grâce aux éoliennes?
Pas du tout.
Eh ben, beaucoup de gens disent, c'est le Danemark, l'Allemagne, tout ça. Non. En proportion, oui. Mais par contre, en quantité, c'est le plus grand pays du monde aujourd'hui, enfin presque, les États-Unis d'Amérique. Donc ils ont, en plus, en 2009, augmenté beaucoup leur production, puisqu'aujourd'hui, il y a à peu près 10 000 mégawatts qui sont produits par des éoliennes. En gros, ces 10 000 mégawatts alimentent 2,4 millions d'habitations, ce qui est quand même pas mal. Alors certes, en proportion de la quantité d'énergie consommée par les Américains, ça ne représente que 2%, mais c'est en énorme progression, puisque ils visent 35 000 mégawatts très bientôt. Donc voilà, c'était quand même une bonne nouvelle. Ensuite, dans la série, le pays qui a battu tous les records en éolien, c'est l'Espagne, hein, puisqu'ils sont à un moment, ils ont eu la moitié de leur production d'énergie électrique qui venait de l'éolien. Ils ont aussi un gros problème, les Espagnols, c'est qu'ils ont encore quelques centrales nucléaires et qu'ils ont des déchets. Alors pour l'instant, les déchets sont retraités par Areva, et puis sont stockés par Areva, mais Areva n'ayant pas vocation à garder les stocks de déchets nucléaires de tous les pays du monde, l'Espagne doit les récupérer. Et donc, un énorme débat s'est ouvert en Espagne sur qu'est-ce qu'on fait des déchets nucléaires, où est-ce qu'on les entasse. Donc il y a plein de projets. Alors c'est un peu comme en France, c'est-à-dire au départ, les villes sont attirées par l'argent et par l'emploi que peut créer la gestion des déchets nucléaires. Et puis il y a de la mobilisation. Et puis là, les gens se disent, non mais attendez, c'est super dangereux, on n'en veut pas près de chez nous, etc. Et petit à petit, bah, les villes ou villages qui étaient motivés pour avoir un centre de déchets nucléaires reculent. Donc voilà, on a un peu ce débat-là aujourd'hui en Espagne. Il faut savoir qu'ils ont besoin de stocker à court terme 7000 tonnes de combustible usagé, 1900 mètres cubes de résidus. Voilà, c'est quand même pas des petites quantités. Mais le nucléaire, c'est jamais des petites quantités. Un petit mot sur une info que j'ai récupérée tout à l'heure et qui est très très mal analysée par la dépêche d'agence. C'est peut-être l'AFP, j'en suis plus sûr. Alors, on apprend que prévenir le cancer, c'est aussi possible, c'est le titre de la dépêche. Et on apprend que l'Union internationale contre le cancer lance une campagne de sensibilisation afin d'informer le grand public sur l'importance de la prévention du cancer et la nécessité d'adopter un comportement sain pour réduire les risques de développer la maladie. Puis après, on nous explique que, par exemple, il y a des cancers qui sont liés à des virus, etc. Des bactéries. C'est des cancers minoritaires, ça représente peut-être moins de 20% des cancers. Alors moi, je suis allé voir. Donc, on nous parle que de ça. Moi, je suis allé voir sur le site de worldcancercampaign.org. Et là aussi, on a la propagande habituelle, finalement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour limiter les cancers aujourd'hui? On nous dit, faut arrêter de fumer. Bon, ça paraît logique. Faut limiter la consommation d'alcool. Faut limiter l'exposition au soleil. Il faut avoir une vie saine, c'est-à-dire grosso modo faire un peu d'activité physique. Et il faut se protéger contre les infections qui donnent le cancer, notamment les papillomavirus. Et puis c'est tout. Moi je me dis, mais mince, si on veut se protéger des cancers, il n'y a peut-être pas que ça. Aujourd'hui, à 22h50 sur France 2, est diffusée une émission qu'on vous conseille de regarder sur l'amiante. Delphine en parlera peut-être tout à l'heure. Hein, l'amiante, c'est grosso modo 3000 morts par an en France.
Ouais, ils annoncent pour 2025, en 2025, il devrait y avoir 100 000 Français qui seront morts à cause de l'amiante. 500 000 Européens.
Alors, donc ça, c'est à cause de l'amiante, à cause du patronat qui n'a pas voulu arrêter d'utiliser l'amiante, alors que les scientifiques dénonçaient depuis, on va dire 1930, à peu près, on est sûr que l'amiante est dangereux à la santé, même avant, hein, pour certaines études.
Ouais,
mais
c'est
voilà.
1906, la ouais. première alerte.
Alors, c'est la première alerte.
C'est un peu particulier, mais c'est la première
ouais,
alerte.
C'est vrai. Hein. Mais 1930, moi j'avais vu, c'est vraiment la grosse étude internationale qui dit, voilà, c'est cancer, on meurt de l'amiante, quoi. Et il y a eu d'autres trucs avant, puisqu'il y a certains travailleurs de l'amiante, les compagnies d'assurance les assuraient plus dès le départ. Donc dès le départ, ils savaient qu'il y avait des risques. Donc voilà. Et ce que je note sur cette campagne contre le cancer, c'est qu'il n'y a rien contre tous les produits qui sont cancérigènes et dont sont soumis notamment les salariés. Parce qu'il pourrait, la campagne, si on veut limiter finalement les risques, c'est de dire refuser de travailler avec des produits cancérigènes. Dénoncer votre entreprise si elle vous fait utiliser des produits cancérigènes. Aujourd'hui, le secteur le plus prolétarisé du travail en France, qui doit être le service, enfin le nettoyage, ils utilisent des produits toxiques. Pourquoi on ne ferait pas des campagnes contre l'utilisation de ces produits toxiques. Et en fait, on se rend compte que la propagande habituelle de dire il faut que ça soit la faute des gens et pas la faute du capitalisme et du patronat fait que tous les gens qui chopent des cancers à cause de leur travail, et il y en a beaucoup, eh ben ils sont exclus de ces luttes. Et voilà, moi je dénonce ce site worldcancercampagne.org qui propage l'idéologie dominante de dire que on ne doit lutter que contre les cancers dont on est seul responsable, et c'est pas vrai. Il y a une partie des cancers sont liés à l'industrie, une grosse partie des cancers sont liés aux produits cancérigènes utilisés par les agriculteurs, qui meurent d'ailleurs de cancer parce qu'ils utilisent ces produits. Là, il n'y a aucune action de fait, et voilà, c'est dommage. Et ils oublient quasiment l'essentiel finalement, parce que tout le reste, arrêter de fumer, arrêter de se mettre au soleil, il y a des campagnes tous les ans là-dessus. Donc finalement, c'est presque inutile ce qu'ils font. Et en tout cas, c'est pas nouveau, donc voilà, c'est triste. Bon, et maintenant je vais donner la bonne nouvelle que j'avais annoncée la semaine dernière, qu'il y a un truc qui s'appelle les Public Eye Awards, qui récompense la pire entreprise du monde au niveau environnemental et social. Et j'avais parlé de GDF Suez, qui était nominé pour la construction d'un barrage, le barrage de Giro, donc en Amérique du Sud, qui va inonder, détruire de la forêt amazonienne, qui va détruire l'habitat, les sources de nourriture de plusieurs centaines d'Indiens qui vivent dans ces régions-là. Donc voilà. Et ben ils n'ont pas gagné, je suis déçu. Ils sont deuxièmes. Et je vais donc, alors je vais pas revenir dessus parce que j'en ai parlé la semaine dernière. Par contre, je vais vous parler du premier. Parce que le premier, c'est le laboratoire Roche. Alors je ne sais pas si vous connaissez, ils font des produits de la cosmétique, je crois, ou des choses comme ça. Et puis ils font de la pharmacie. C'est un labo qui est suisse. Et pourquoi ils ont gagné ce prix pour la pire entreprise environnementale ou sociale du monde ? Eh bien en fait, c'est pour leur participation à travers un médicament qui s'appelle le Cellcept en Chine. Alors ça revient sur les transplantations d'organes en Chine, puisque aujourd'hui, essentiellement pour des raisons culturelles, il n'y a quasiment aucun donneur volontaire d'organes en Chine. Et pourtant, il y a des transplantations. Comment ils font ? Alors les chiffres officieux qui circulent, c'est que 90% de ces dons d'organes viennent des condamnés à mort chinois, auxquels on fait signer un papier comme quoi ils donnent leurs organes. Naturellement, j'imagine bien que vous êtes condamné à mort, vous n'êtes pas totalement, enfin vous n'avez pas vraiment le choix, quoi. Vous pourriez ne pas les donner, mais en même temps vous êtes condamné à mort, donc vous les donnez. Donc cette attitude de l'État chinois d'utiliser les condamnés à mort comme source d'organes, condamné par la communauté internationale, n'empêche pas Roche de travailler avec la Chine à travers différentes expérimentations. Donc dès 2006, Roche a bossé sur un essai clinique avec 36 cœurs transplantés dans 3 cliniques chinoises pour tester ce médicament qui s'appelle Cellcept, qui permet de faire accepter les nouveaux organes par celui qui le reçoit. Et aujourd'hui, il travaille sur une expérimentation de 300 transplantations de reins et de foie, donc dans des cliniques chinoises. Donc 90% de ces organes sont issus des condamnés à mort chinois. Donc voilà, c'est pour ça que Roche, pour sa collaboration avec cette horreur chinoise, est l'entreprise la pire du monde d'après ce classement. Voilà. Et puis, alors que là, on est envahi par une espèce de d'homme à casquette qui vient nous faire un salopard en casquette.
C'est lui qui le dit. Hein, non, c'est parce lui qui le dit.
Donc il prépare effectivement la bande à Spartacus, l'émission des luttes sociales et de la lutte des classes qui commence dans 3 minutes très exactement sur la pendule de la plus rebelle des radios. On va faire un petit agenda. Alors, je vais commencer par un truc un peu loin, mais je vais le faire en premier, ce sera fait, parce que j'allais oublier. L'Union juive pour la paix fait une conférence qui s'annonce très intéressante, avec des anciens déportés, avec des historiens, qui s'appelle « Détournement de l'Holocauste à des fins politiques ». Donc c'est vrai que c'est un sujet tabou, hein, cette utilisation systématique de l'Holocauste. Donc l'Union juive pour la paix fait cette conférence, c'est mardi le 9 février, la semaine prochaine, à 20h, à la Maison des Passages, 44 rue Saint-Georges, dans le 5e. Donc c'est dans 15 jours. Voilà, j'annonce déjà. Sinon, plus près de nous, moi j'ai la soirée pédagogique autour de l'évaluation organisée par le syndicat CNT Éduc. Éducation, donc ça sera demain soir à 19h30 au local de la CNT, c'est 44 rue Burdeau sur les pentes de la Croix-Rousse. On va parler d'évaluation, est-ce que c'est utile, à quoi ça sert, est-ce que ça sert de repère, est-ce que ça sert aux parents, est-ce que ça sert à un contrôle social, on peut imaginer plein de choses, donc voilà, on va parler de tout ça.
Ouais, alors moi demain j'ai beaucoup plus drôle, il y a le bar de soutien à Rébellion au grand lieu, c'est 19 rue Cazeneuve, c'est à partir de 17h et puis toute la soirée, voilà, beaucoup plus festif.
Ouais, tout à fait, c'est un nouveau lieu squatté qui s'est ouvert il y a un peu plus d'une semaine. Et puis moi j'ai un truc toujours sérieux, moi je suis sérieux hein, comme gars, on va parler de jouets, mais pas pour s'amuser, pour parler des jouets sexistes, donc il y a un débat samedi. La Griffe, donc la Griffe, c'est la librairie libertaire qui se trouve 5 rue Sébastien Griffe, dans le 7e, à côté du métro Saxe-Gambetta. C'est à 15h et ils vont débattre, essayer de... Il y a des associations qui luttent contre les jouets sexistes. Pourquoi les filles jouent avec des dinettes et des Barbies, forcément, et pourquoi les garçons forcément ont des ateliers de bricolage et des personnages guerriers et musclés.
Attends, les filles, souvent, c'est pire, on leur file un caddie, on jouait en plastique, elles ont le truc de la caissière... Ouais. Ouais, magnifique, magnifique.
Donc voilà, c'est pas terrible. Hein. Donc voilà sur les jouets sexistes. Tu avais autre chose à annoncer ? T'avais pas ?
Non.
Ça tombe bien, il est 8h.
Allez.
Eh ben, on se retrouve demain pour le prochain Canu Info, 19h-20h, normalement, si tout va bien. Sur le site de radiocanu.org, il y a un lien sur le blog du Canu Info du jeudi. Vous avez les archives du Canu Info du jeudi. Tout de suite, la bande à Spartacus.
Ciao. Le Canu Info de Radio Canu.